beaucoup de perspectives. Et si vous voulez entendre la revue de presse de Thomas Baumgartner, c'est maintenant. Ah oui. Et elle est évidemment numérique ce matin, Thomas.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Effectivement, qui dit numérique dit nombre, des 1 et des 0 et des 88 aussi. Plus 88%, c'est l'augmentation des achats via le téléphone mobile et les tablettes en un an en France. Avec 6 milliards d'euros de produits vendus, la vente et l'achat par smartphone représentent 10% du commerce électronique. C'est ce qu'on lit dans Le Figaro ce matin, sous la plume d'Olivia de Troya. J'aime, on nous dit que les mentalités évoluent quant au commerce par smartphone. Comme nous avons eu un effet waouh sur le net il y a 4 ou 5 ans, il y a un effet waouh sur le mobile. Voilà ce qu'on dit, ce qu'on lit dans l'article et ce que dit une experte du domaine. Et là, quand même une question. Effet waouh, si cette dame avait travaillé dans l'étude des marchés des matières premières, par exemple, ou dans l'expertise du microcrédit dans le sous-continent indien, aurait-elle jamais utilisé cette expression d'effet waouh? Certes, on comprend ce qu'elle veut dire, mais ça maintient ce qui touche aux nouvelles technologies dans une forme, on va dire, d'enfance de pacotille. Effet waouh, il reste encore dans on ne sait quel inconscient un côté gadget à ces questions. J'aime un côté gadget qu'on retrouve aussi dans une certaine mesure dans l'information selon laquelle un ordinateur a battu un champion du jeu de Go. Marc Cherki nous en parle, toujours dans le Figaro. AlphaGo, un logiciel conçu par des chercheurs de Google DeepMind, vient d'écraser 5-0 le champion européen en titre du Go. Le nombre de combinaisons possibles est incroyablement plus élevé au jeu de Go qu'aux échecs, rappelle un chercheur de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, qui a travaillé sur le sujet. Pour améliorer l'algorithme initial, le logiciel AlphaGo a été associé à la notion dite de deep learning, nous explique-t-on, j'aime. C'est-à-dire une mécanique qui mime le fonctionnement du cerveau en mettant en série de nombreux petits réseaux de neurones informatiques. Et on comprend que ce type d'information est aussi un coup marketing à un moment où les géants Google, Facebook, Apple investissent massivement dans le deep learning. Ils se concurrencent, rachètent des startups spécialisées dans le domaine et alors aussi que l'intelligence artificielle est déjà présente au cœur de produits grand public.
Je précise que deep learning, ça veut dire l'apprentissage profond, ce qui déjà nous met en face d'abîme, de perplexité. L'apprentissage profond, qu'est-ce que ça peut signifier? En tout cas, l'intelligence artificielle, le deep learning aussi, est en deuil puisqu'il a perdu l'un de ses pères.
Le dernier des pères de l'intelligence artificielle, l'Américain Marvin Minsky, est mort dimanche à 88 ans à Boston. Hervé Morin, dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, fait son portrait. Il avait créé le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, en 1959. Et avant ça, il avait inventé le premier simulateur de réseau neuronal, justement, en 1951. En 1956, il fait partie des organisateurs d'une école d'été au Dartmouth College dans le New Hampshire. Leur idée était de concevoir une discipline nouvelle et Minsky a eu un apport majeur, souligne Jean-Gabriel Ganassia du laboratoire d'informatique de Paris 6. J'aime par ailleurs Jean-Noël Lafargue sur rue 89 souligne un paradoxe. Puisqu'il a à lui seul personnalisé l'intelligence artificielle, Minsky a parfois eu à son corps défendant, je crois, écrit Lafargue, un poids exagéré sur sa discipline. Ce qui ne passait pas par lui peinait à exister. Mm-hmm. Ainsi, lorsque Minsky et Papert ont pointé les limites théoriques qu'ils voyaient au réseau neurones formels dans leur livre Perceptrons en 1969, cette discipline, associée à l'intelligence artificielle, a aussitôt perdu ses soutiens financiers pour une bonne dizaine d'années et elle a disparu de l'espace médiatique jusqu'à son récent et admirable retour sous la forme du deep learning.
Et puis Minsky, c'est un visage également dans l'information du jour, Thomas.
Un visage parmi d'autres visages, mais il y en a qui refusent encore de montrer leur visage à l'heure de la Facebookisation du monde et de l'accès un peu partout par le biais de notre profil. J'aime. C'est le cas du chanteur Gérard Manset qui refuse qu'on le prenne en photo pour son portrait en dernière page de Libération ce matin. Alors c'est un dessin signé Kilofer qui le représente. Il autorise généreusement l'illustrateur à prendre des notes graphiques de sa personne, écrit Philippe Brochen dans Libé. Et après 5 minutes d'esquisse, le collègue est promptement invité à ranger son feutre. Et le tout à l'avenant, l'interprète de Animal on est mal apparaît mal embouché et cassant. Je ne veux pas faire le coq, mais on n'a pas envie de faire partie de cette chanson française, dit Gérard Manset à un moment donné dans cet entretien. Je suis dans la poésie, dans le dadaïsme, pas dans les auteurs SACEM. Au fond, derrière tout ça, il y a la question de la distinction. Et aujourd'hui, donc, pour se distinguer, il faut rentrer dans ses coquilles, dit Manset. Et on cache son visage. Se distinguer, ce serait donc, en quelque sorte, disparaître. J'aime.
Et puis si on veut retrouver Thomas Baumgartner, par exemple, dans des entretiens avec le cinéaste Barbette Schroeder, qu'est-ce qu'on fait?
J'aime.
Merci Mathieu. Oui, c'est à voix nue avec Barbette Schroeder, c'est le dernier volet ce soir à 20h.
Merci Thomas Baumgartner.